Bonjour, bonjour à chacun. On a lu tout à l'heure le psaume 13 qu'on va reprendre. David a eu une vie souvent compliquée. Déjà, quand il était chez ses parents, c'était le plus jeune. Et on voit à plusieurs reprises qu'en étant le plus jeune, il était un petit peu, peut-être un peu méprisé par ses frères. Et il y a plusieurs épisodes où on sent qu'il y a de la tension de la part des grands frères de David envers lui. C'est tendu. Ensuite, il va être au service de Saül. Et puis là aussi, c'est compliqué. Saül, plusieurs fois, va être pris d'un coup de folie et va essayer de le tuer. Pour finir, il est obligé de se sauver. Et là, c'est toute une période de fuite dans les montagnes d'Israël, à jouer à cache-cache avec Saül qui cherche à mettre la main dessus. Même avant, il avait eu le déplaisir de conjugal. Il était marié avec la fille de Saül. Et puis, il doit fuir dans les montagnes. Elle ne vient pas avec lui. Et bien plus tard, lorsqu'il sera roi, elle va le mépriser dans son cœur. C'est lorsqu'il danse devant l'arche qu'on ramène. Et puis, le voilà roi et s'ouvre une période plus prospère peut-être pour lui, mais qui va prendre fin. Et David va encore connaître bien des chagrins au travers de ses enfants, au travers de son fils qui va le renverser au niveau du pouvoir, en tout cas pendant quelque temps. La vie de David est compliquée. Nous nous souvenons aussi de l'épisode où Bathsheba est enceinte et où il perd son fils et il pleure en disant à l'Éternel, Seigneur, s'il pouvait ne pas mourir. Et puis son fils décède. David a traversé une vie avec plein de difficultés, de chagrins. Et le psaume 13 est un psaume où David va exprimer son ras-le-bol. Il y en a marre. Il est dans un état émotionnel où il dit, là, moi, je ne peux pas continuer comme ça, je vais craquer. Je vais craquer. Et on va voir à travers ce psaume comment David traverse ce qu'on peut appeler peut-être du découragement ou de la déprime, voire un épisode dépressif. Et il est au bout du rouleau et certainement il sent que il ne faut pas continuer comme ça parce que, comme s'il était un peu un carrefour qu'on voit au verset 4, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, se dit, si ça continue dans cette spirale-là, je vais vraiment m'enfoncer, mais cette fois je vais m'enfoncer pour de bon, je vais me recroqueviller sur moi-même, au niveau de mon âme, au niveau de mon cœur, au niveau de ma relation avec Dieu, de ma relation aux autres, et je vais plonger. Et ce matin, au travers de ce psaume, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur ces moments où nous nous sentons vraiment découragés, où on se sent déprimé, au bout du rouleau, traverse peut-être une phase dépressive et on est sur le fil. Alors, au travers de ce psaume, ce matin, on regardera quelques aspects et puis en même temps, ou après, ce matin, en même temps que d'étudier ce psaume, je vous donnerai un peu mon témoignage, un témoignage sur justement ces périodes où on se dit là ça va pas depuis un moment, je suis sur le fil et jusqu'à quand? Et là faut rebondir, là faut que Dieu intervienne, faut que quelque chose change. Et Jean-Denis, dans l'introduction tout à l'heure de ce psaume, disait c'est incroyable comment on passe du verset 2 où David exprime son mal-être profond au verset 6 où il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Au début du psaume, il est loin de chanter. Et à la fin du psaume, il chante. Alors, quel est le ressort ici pour que, comme David, nous puissions passer de ce bout du rouleau, de cette fébrilité où on sent que il suffit de pas grand chose là pour qu'on s'enfonce vraiment, à une sorte de renaissance, de renouveau, où on va pouvoir lever les yeux et être dans cette confiance, dans l'allégresse, dans le chant. D'abord, nous voyons avec David et avec d'autres hommes de Dieu que le fait de traverser des périodes où on se sent mal, ce n'est pas anormal. Ça arrive. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas non plus une faiblesse. Et David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, eh bien, dans plusieurs psaumes, va exprimer son profond désarroi. Il va mal à l'intérieur de son âme. Et c'est important que, en tant que chrétiens, nous puissions, comme David, prendre acte, peut-être de ces moments où, dans notre vie, on se sent pas bien, on traverse une période où on est un peu dépressif, on est un peu déprimé, on broie du noir. Mais David va mettre des mots sur cela. Et nous avons nous aussi besoin de le reconnaître et de le reconnaître auprès du Seigneur. Et le psaume commence vraiment dans ce ras-le-bol, il dit 4 fois jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Jusqu'à quand ? Ça va durer combien de temps encore ? Combien de temps je vais rester encore dans cet état embourbé ? Et il y a ce cri du cœur, et ce cri du cœur en même temps qui s'accompagne d'une difficulté, c'est qu'on a l'impression que le ciel est fermé. David dit, moi j'ai l'impression que Seigneur, tu m'oublies, que tu me caches ta face, non seulement je vais pas bien, mais en plus j'ai l'impression que il n'y a personne à l'autre bout du fil. J'ai l'impression de ne pas voir ta face, j'ai l'impression que tu n'agis pas, j'ai l'impression que tu ne me parles pas, j'ai l'impression que tu ne m'éclaires pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de traverser des périodes comme ça dans votre vie où vous vous sentez mal et en plus votre vie chrétienne ne semble pas vous être une aide? On dit, je sais pas, non seulement ça va pas, je déprime et tout ça, et en plus, je sais pas, j'ai l'impression que Dieu là-dedans, il fait rien, il cache sa face, il me parle pas, il me restaure pas, on a l'impression que vraiment il y a une rupture de communication. C'est ce que David exprime. Il dit, je vais mal et en plus le Seigneur, il semble absent. Hein. Oh, on a déjà traversé ça. Et il continue en disant, jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Des soucis. Est-ce qu'on n'a pas des soucis? Le mot qui est employé là, c'est des plans, des conseils. C'est-à-dire que dans la tête de David, ça cogite. Il tourne et il retourne la situation dans tous les sens pour trouver un plan, pour trouver une issue, pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Il n'en sait rien. Ça s'agite, c'est là, ça le préoccupe. Il y pense tout le temps. Ça l'envahit. Ça le trouble. Il dit, jusqu'à quand aurai-je chaque jour des chagrins dans mon cœur? En plus d'avoir des problèmes et des soucis et de chercher dans tous les sens des sortes de solutions qui ne viennent pas, il y a aussi des chagrins. Il y a des choses qui nous rendent tristes. Et une chose qui est triste, est triste. On ne va pas dire qu'elle ne l'est pas. Mais il y a des choses qui sont tristes. Et cette tristesse, on se dit, mais cette tristesse, elle est là, elle est tout le temps là, elle quitte pas, elle est omniprésente. Et j'aimerais bien qu'elle puisse s'évaporer. Ça me ferait du bien qu'elle finisse par s'évaporer. Mais elle ne s'évapore pas du tout et jusqu'à quand est-ce que ça va me plomber l'ambiance? Jusqu'à quand est-ce que ça va me plomber mon moral? Des chagrins. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Là, c'est les problèmes que d'autres peuvent nous causer. Des bâtons dans les roues qu'on nous met, des pressions qui sont exercées, des conflits qui sont en cours. Et il y a cette souffrance, il y a ce désarroi face à des personnes dans l'entourage dont l'interaction en tout cas va nous miner le moral, va nous blesser. Et on dit, mais je supporte plus ça. Jusqu'à quand? Des personnes, des chagrins et des problèmes qui font que l'un ajouté à l'autre, ajouté au troisième, et on en rajoute, ça nous met dans un état où on dit, mais là j'en peux plus, là moi j'arrive au bout, hein. Jusqu'à quand, hein? Je vais craquer. C'est beau, n'est-ce pas, de voir des hommes de Dieu dans la parole traverser ces moments. Parce que du coup, on se dit, tiens, eux, ils les traversent. Je leur ressemble, je les traverse aussi. On est fait du même bois. Et on se dit, pourtant, il y a des promesses que Dieu nous fait. Il dit, jusqu'à quand cacheras-tu ta face ? Dans le Nouveau Testament, nous pouvons, nous, qui connaissons Jésus-Christ, lire par exemple en hébreu que nous avons un libre accès dans le lieu très saint. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin de trouver du secours, afin d'être secourus dans nos besoins. C'est formidable. Et pourtant, on se dit, pourtant, bien que j'ai ce libre accès, pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'il y a une chape de plomb entre le ciel et la terre, entre Dieu et moi. Il y a le courant qui ne passe pas. Chaque jour, des chagrins dans mon cœur, nous pouvons lire en 2 Corinthiens chapitre 1 que Dieu est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, verset 3, qui nous console dans toutes nos afflictions. On dit, mais Seigneur, puisque tu es le Père des consolateurs, le Dieu de la consolation qui me console dans toutes tes afflictions, où est ta consolation ? Alors, au verset 4, David se tourne de manière précise vers Dieu. Jusqu'à présent, il est dans ses problèmes, il est dans son mal-être, et il a une vie spirituelle. Mais là, il est vraiment au bout du rouleau. Et il se tourne de manière précise vers Dieu et lui dit, regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Et il lui fait cette demande, donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Il dit, Seigneur, là, je suis submergé. Je suis dans le brouillard, je ne sais plus quoi penser, quoi en penser, je suis perdu. Tous ces soucis, ces problèmes, ces adversités, c'est là tout autour, j'arrive même plus à avoir les idées nettes. Seigneur, réponds-moi et donne à mes yeux la clarté. J'ai besoin, Seigneur, de pouvoir poser un regard éclairé sur ma vie, un regard éclairé sur ce que je traverse, un regard éclairé sur là où tu veux m'emmener. Je veux y voir clair, Seigneur. Et vous savez que quand il y a le brouillard qui nous envahit, qu'on soit en voiture, qu'on soit en bateau, qu'on soit à pied, finalement, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. Et quand on traverse un peu ces moments de profond découragement, de dépression, en fait, il y a cette sorte de brouillard qui est là, dans notre âme, dans nos pensées, et on se sent perdu parce qu'on n'a pas une vision claire, une direction claire vers laquelle marcher, à partir de laquelle construire, bâtir, agir, vivre. On n'a pas de cap. On a perdu le cap et c'est justement cette expression, on est déboussolé. Déboussolé. Il y a quelque chose de très très lié à la dépression, c'est le fait justement d'être déboussolé. On une autre expression, c'est on tourne comme une poule sans tête. Vous avez déjà vu une poule sans tête qui court? C'est assez particulier. J'étais petit, moi, quand j'ai vu ça. C'est surprenant. Coupe la tête d'une poule et elle court pendant encore un petit moment dans tous les sens, mais bien sûr sans voir où elle va. Nous, on est là et on se débat et on court un peu dans tous les sens. On va à droite, on va à gauche, on tourne en rond, mais en fait on court comme une poule sans tête parce que il nous manque la clarté à nos yeux. Donne à mes yeux la clarté. Seigneur, j'ai besoin que tu m'éclaires, que tu dissipes ce brouillard pour que je vois où aller, où tu veux que j'aille, quel cap tu me fixes. Donne à mes yeux la clarté, ça ne veut pas dire, Seigneur, enlève ce qui cause mes soucis. Ça ne veut pas dire, Seigneur, enlève les ennemis qui s'acharnent, qui me blessent, qui sont là constamment. Ni, Seigneur, fais évaporer d'un seul coup mes chagrins. Nous, souvent, Quand on arrive parfois à se dire, tiens, finalement, ma dépression, c'est dû à ceci, c'est dû à cela, ce qui est rarement le cas d'ailleurs, mais ce sont des causes très secondaires. On dirait, Seigneur, ça irait mieux si ce problème était réglé, si telle personne n'était plus dans mon entourage, si... Et ce n'est pas la prière que David fait ici. Même si le Seigneur peut agir aussi et agira sur les épreuves que nous traversons et les personnes ou les circonstances adverses, il le fera en son temps. Mais la chose la plus importante qui va nous faire passer du verset 2 au verset 6, du gouffre à la joie et au chant, c'est le fait que le Seigneur puisse donner à nos yeux la clarté. Seigneur, apprends-moi à voir clair. Donne-moi une réponse claire. Réponds-moi. Et David va recevoir la clarté qu'il demande. Et c'est important que nous puissions, à un moment précis, lorsque on ne va pas bien, ça fait un moment que ça traîne, ça dure, etc. On continue notre vie chrétienne, mais ça empire quelque part. Et on sent le moment où on est sur le fil. Venons rencontrer précisément le Seigneur. Venons à lui et disons-lui, Seigneur, là maintenant, je sens que je veux pas plonger dans le gouffre, dans ce sommeil de la mort où je vais me recroqueviller dans mes problèmes sur moi-même, je vais maigrir. Seigneur, j'ai besoin de voir clairement le cap que tu me donnes. Et le Seigneur va nous montrer. Si nous lui demandons, il nous montrera. Il nous montrera clairement. Il nous redonnera le cap qu'on a perdu. Il nous reboussolera, j'ai envie de dire. On est déboussolé. Il va à nouveau nous donner cette boussole avec la direction, avec le ce qui nous permet d'avoir ce regard qui va loin et dans la direction du Seigneur. Et même si les épreuves et les problèmes ne sont pas achevés, tenir le cap. Et lorsqu'on fait ça, alors le Seigneur va nous restaurer. Et ce qui se passe dans le cœur de David, il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » D'abord, ça, c'est un des premiers caps. Romains nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Moi, j'ai confiance en ta bonté, Seigneur. Déjà, un premier cap, c'est que toute chose concourt à mon bien. L'apôtre Jacques le dira autrement. Il dit, considérez mes frères comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et la patience, etc., va produire un chrétien solide, abouti, accompli, prêt à toute bonne œuvre. Il dit seulement, il faut la sagesse de porter ce regard-là. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, mais qu'il demande sans douter de quoi ? Sans douter que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, sans douter que le chemin que Dieu permet a du sens et précieux. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Ça, c'est une première direction que David retrouve. Seigneur, tu ne me veux pas du mal. Ton objectif pour moi n'est pas de me ruiner. Tu ne veux pas ma ruine intérieure. Tu ne veux pas me démolir. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et ta bonté, Seigneur, elle me construit. Ensuite, il dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. On est souvent focalisé sur nos problèmes, sur ce qu'on traverse. Et là, David reconsidère le salut de Dieu dans sa vie, en disant « J'étais perdu, j'étais mort dans mes péchés, et pourtant, le Seigneur, c'est celui qui me pardonne, c'est celui qui me sauve, c'est celui qui donne le sens de mon existence. » Et ça, ça me remplit de joie. De savoir que je ne traverse pas la vie, je ne traverse pas la vie et ses épreuves sans le salut de Dieu, sans un Dieu sauveur à mes côtés, qui m'entoure avant, qui m'entoure après, qui m'entoure autour. Je traverse les épreuves, c'est vrai, mais j'ai un Dieu, je connais et je suis accompagné du Dieu du salut, et j'ai de l'allégresse pour ça. Et il dit, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur a résolu tous ses problèmes. Mais David se souvient déjà du bien que Dieu lui a fait dans le passé. Et le Seigneur, il m'a fait du bien dans ma vie. Je peux le louer pour ça. Et puis, il me fait du bien dans le présent. Vous savez, souvent, quand on traverse des difficultés, qu'on ne va pas très bien, des fois, on se dit, bon, allez, je vais me consoler comme je peux, il y a pire. Et des fois, ça vous est déjà arrivé de vous dire ça, il y a pire. Il y a un tel, alors lui, voilà, j'aimerais pas être à sa place, franchement, il y a pire. Mais en fait, ça ne nous console pas, n'est-ce pas? Même quand on se dit qu'il y a pire, il manque l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la reconnaissance. La Bible nous dit, soyez reconnaissants. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Oui, il y a pire. Mais si je m'arrête en disant, bon, ben, il y a pire, ouais. Par contre, tu peux dire, Seigneur, c'est vrai, il y a pire. Alors, moi, je veux te remercier, Seigneur, pour telle chose qui est positive dans ma vie. Je veux te remercier pour telle chose qui pourrait être pire. Il y a des gens chez qui c'est pire. Mais chez moi, ben, cette chose-là, par ta grâce, elle va bien. Je veux te remercier de cela, je veux te louer. Et c'est ce processus de reconnaissance qui a donné lieu à ce beau cantique qu'on chante souvent dans les aides de la foi, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Deux attitudes. Il dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Et ce cantique a été écrit par quelqu'un qui vivait ça. Qui, alors qu'il y a des tempêtes qui assombrissent notre ciel intérieur, soit je vais me focaliser dessus, soit en antidote, je vais apprendre à avoir un cœur reconnaissant. Voir où est-ce que le Seigneur nous fait du bien. Où est-ce que le Seigneur nous fait des dons, des cadeaux, pour dire, Seigneur, ça, je veux te remercier pour ça. Parce qu'après tout, ça pourrait être pire. Je pourrais ne pas avoir ça, je pourrais ne pas avoir ça, qui est solide et stable dans ma vie. Et il y a des personnes autour de moi pour lesquelles, justement, ces choses-là sont en miettes. Seigneur, je veux te remercier pour ceci, pour cela. Compte les bienfaits de Dieu. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, en même temps que ce psaume, je vous donnerai un peu mon témoignage. C'est une prédication témoignage. Hein? Et c'est important. On a vu que des gens comme David et d'autres, Élie par exemple, ont traversé des moments de dépression. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, moi je ne savais pas du tout ce que c'était que traverser un épisode dépressif. Jusqu'à au moins 33 ou 34 ans. Et du coup, même quand j'étais plus jeune, après le Seigneur m'a mis un peu d'eau dans le vin, mais quand j'avais 20, 21 ans, les gens qui étaient un peu dépressifs, c'était des extraterrestres que je méprisais profondément. Hein. Je dis, bah, je comprends pas le principe. Pas avoir le moral. Ça me semblait incongru. Il y a 5 ans, en septembre, j'ai fait une rentrée après les vacances, et j'ai fait une rentrée, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre, j'étais et puis ça durait, j'avais plus la patate, j'ai mal au ventre, tout ça, fait non, mais ça c'est des angoisses, ah, moi, oh quand même, et il a fallu à ce moment-là que je puisse reconnaître ce que je traversais. Sans culpabilité, jouer à cache-cache avec le Seigneur, mais pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne me sens pas bien. J'arrive même pas à analyser d'où ça vient, mais je me sens mal. Vous n'avez qu'une hâte, c'est que ça finisse. Hein, c'est jusqu'à quand, hein, jusqu'à quand. Je dis, mais oh, j'espère que ça ne va pas me rester toute ma vie, ce truc-là, quand même. Et j'aurais voulu que ça puisse. Et puis paf! Pas comme ça. Et j'ai demandé au Seigneur de. Sur ce que je traversais. Et à ce moment-là, il y a 5 ans, la clarté que le Seigneur m'a donnée, c'est de cultiver mon jardin. Alors attention, de cultiver mon jardin intérieur. En disant, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, je ne sais même pas vraiment pourquoi je me sens comme ça, mais par contre, je vais m'occuper de ce jardin intérieur tel qu'il faut s'en occuper, et à la fin j'aurai les fruits. Pour avoir les fruits, il faut commencer par travailler la terre, la labourer, puis après planter, puis après arroser, soigner, couper là où il faut couper, entretenir, protéger. Et donc, à ce moment-là, je me suis en quelque sorte mis en chantier. J'avais toujours la boule au ventre et j'étais toujours pas bien, mais le Seigneur m'avait mis cette clarté de dire, mets-toi en chantier, et tu verras bien, mais le quand, ça je sais pas, mais tu en auras les fruits. Travaille ton jardin, puis quand on travaille son jardin, à la fin on en a les fruits. Et c'est ce que j'avais fait. Donc je vais plus vous détailler le deuxième épisode que le premier, parce que le premier est trop lointain, je m'en souviens plus trop en fait. Mais il y a plusieurs aspects de ma vie. Alors peut-être c'était des choses où, vous savez, vous êtes accroché à, peut-être il y a un péché dans votre vie qui est là. Vous dites, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché ne nous rend pas heureux, peut-être ce domaine-là, je vais le régler un petit peu plus sérieusement. Peut-être telle fréquentation qui est stérile, vous savez, les relations qui sont stériles, ça nous laisse vide en fait. Peut-être que si je veux être rempli, telle personne que je fréquente, mais c'est vraiment stérile, peut-être que je vais mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Peut-être changer les gens que je fréquente. Ou la fréquence. Et il y a plusieurs choses par lesquelles le Seigneur va nous faire mettre de l'ordre, va nous faire travailler notre jardin en disant, mets-toi en œuvre avec foi, avec confiance, parce que le principe, c'est que quand tu sèmes, tu récoltes. La récolte, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive, mais la confiance en Dieu, c'est qu'elle arrive. Ça, c'était il y a 5 ans. Et puis, cette année, c'était beaucoup plus compliqué. Cette année, j'ai traversé un épisode... J'étais pas bien, un épisode dépressif, je pense. Léger en début d'année, ça a commencé en janvier. Désagrément d'avoir raté un entretien, etc. Plusieurs choses, problèmes familiaux dans ma famille à moi. Plusieurs choses qui commencent à vous plomber l'ambiance, à vous contrarier, à vous attrister, certaines choses qui vous attristent. Qui vous déçoivent ou... et puis hop, tout ça vous monte dans la tête et vous commencez à perdre le cap. Il y a une sorte de brouillard qui envahit, on ne sait plus très bien, on est déboussolé. Et c'est ça que j'ai vécu à partir du mois de janvier, et en fait ça n'a pas été en s'améliorant. Et l'apogée où j'avais plus envie de parler à personne, ça c'était au mois d'août. Mois d'août, j'ai vécu un très mauvais mois d'août. Alors, si je vous raconte ça, c'est important parce que des fois on se dit, tiens, Jean-Denis, Jacques, Adrien, c'est des pasteurs, tout ça, eux ça leur arrive jamais. Eh bien si. Hein? Et c'est important qu'on puisse dire, tiens, il n'y a pas des surhommes. Le seul surhomme, c'est Jésus. Amen. Et c'est important parce que on traverse les mêmes choses. Et c'est important de prier les uns pour les autres. Ça, j'en reparlerai. Alors, au mois d'août, c'était vraiment pas la pêche, là. C'était... J'avais envie de voir personne. En plus, j'ai mon frère qui est venu. Pourtant, je me réjouissais de sa venue, mais je n'ai pas su profiter de la semaine où il était là. Enfin, comme ça, quoi. Et puis, bon, ça commençait à devenir tendu. Et donc, j'en suis un peu arrivé à comme David, à dire, bon, jusqu'à quand, hein? Ça commence à durer, là, ça fait 8 mois. Et j'ai rencontré un pasteur à qui j'ai parlé. Et je lui disais, je suis un peu perdu, je sais plus quoi, voilà. Alors, et en particulier, je remettais même en question... Je savais pas si j'avais bien fait de me remettre à mi-temps, à plein temps, quitter mon mi-temps, l'église. Je remettais même en question un peu la place du ministère. Et il me dit, mais écoute, demande une réponse claire au Seigneur. Donne à mes yeux la clarté. Alors j'ai dit au Seigneur, bah Seigneur, est-ce que j'ai fait les bons... Parce qu'on est... Là, ça cogite, est-ce que j'ai fait les bons choix? Pas les bons choix, etc. Mais en fait, on a perdu le cap. Et ça, c'est la chose la plus importante, le cap. Et je dis, Seigneur, il faut que tu m'éclaires. Eh bien, la semaine d'après, on était en vacances encore ailleurs, chez l'oncle d'Esther, et dans la conversation, il me cite un verset, je l'ai partagé déjà, mais c'était en Romains. Et il dit, ce verset dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et ça, c'était une semaine après que j'ai demandé au Seigneur de m'éclairer. Il dit, éclaire-moi maintenant. Eh bien, ça m'a frappé plein fouet. Parce que, bon, il y avait cette question de direction d'école que je n'avais pas eue. Et puis, voilà, on ne sait plus bien où on en est. Et là, c'était une réponse claire. Le Seigneur disait, je t'ai appelé au ministère, ton cap, attache-toi au ministère. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc ça, c'était fin août. Et là, ça m'a redonné... Vous savez, quand le brouillard se dissipe et je sais où je dois aller, je sais l'objectif à atteindre. Le Seigneur, il donne cette clarté. Et c'est sur ça que je veux insister ce matin. Des fois, on se sent un peu perdu, on commence à déprimer, etc. On n'est pas bien. Mais la plupart du temps, dans ces cas-là, on n'a plus de cap. Et le fait de retrouver un cap, nous oriente vers la sortie. Pas des épreuves et pas de tous les problèmes. Mais on ne va pas sombrer dans le sommeil de la mort. On va aller vers la lumière du Seigneur. Et le Seigneur m'a redonné un cap. Attache-toi à ton ministère. Et puis ensuite, j'ai fait ma rentrée. Et puis il a insisté. Vous avez vu qu'on a lu Philémon. Et dans Philémon, il est question d'un certain Archip. Bon, j'en ai pas parlé dans la prédication, mais moi, en préparant la prédication, bon on cherche Archip, il était pasteur à Colosse. Et dans l'Épître aux Colossiens, il est dit à Archip, dites à Archip de prendre garde au ministère qu'il a reçu du Seigneur afin de bien le remplir. Pam ! Deuxième rappel. Alors, Seigneur, il insiste là. Tu as reçu un ministère, prends garde à ce ministère afin de bien le remplir. Et puis, encore une ou deux semaines après, je lis dans ma lecture personnelle Jérémie et je tombe sur ce verset. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Oh là 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 là. Il dit, mais attends, Seigneur, pourtant j'ai retrouvé le cap et le moral. Alors, qu'est-ce que tu... Eh bien, bon, j'ai prié, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux me dire là? Et le Seigneur m'a montré, et c'était toute une évolution, faire avec négligence, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, etc. Et la réponse qu'il m'a donnée, hein, c'est de dire, mais va falloir qu'il y ait un moment, tu me resserres pleinement. Là, tu as repris ton plein temps. C'était nécessaire et tu as bien fait. J'ai cette conviction. Mais, ça sera un temps. Et, le Seigneur m'a dit, vous voyez, je me suis dit, quand je vais arriver au ciel, je dis, alors je t'ai confié un ministère, tu as pu bien le remplir. Oui, mais j'aurais voulu mieux, avec plus de temps, mais tu comprends, c'était compliqué. Il y avait mon travail. Et j'ai eu cette conviction de dire, mais ça, c'est pas une réponse que je pourrais faire au Seigneur. Et à ce moment-là, vous voyez, dans cette évolution du cap, le Seigneur m'a montré un cap, en disant, mais tu vois, il y a un moment où tu vas quitter l'éducation nationale. Tu n'iras pas jusqu'à tes 64 ans à la retraite et puis après tu me serviras pleinement. Ça sera... Non, tu vas le faire avant. Tu vas quitter. C'est pas quand, timing, mais tu n'iras pas jusqu'au bout. Il y a un moment, tu t'arrêteras. Et je sais qu'il y a un moment, eh ben, je dirai au revoir à l'éducation nationale. Et c'est intéressant de voir comment le Seigneur... Vous savez, on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, le Seigneur a un plan. Pourquoi ? Parce que, déjà, quand je suis rentré dans l'éducation nationale, je l'avais fait en me disant que j'aurais du temps pour le Seigneur, plutôt que de prendre une autre voie, une école d'ingénieur ou autre, quand j'étais en prépa. Je dis, Seigneur, je choisis ce métier, comme ça j'aurai du temps. C'est une bonne chose, hein. Mais c'était aussi une manière cachée de lui dire, je t'en donnerai pas plus. Ensuite, longtemps, le Seigneur m'a travaillé, vous le savez, pour m'amener à me mettre à mi-temps et puis faire des études pastorales. C'était dur, j'avais pas envie. Ça luttait intérieurement, mais le Seigneur m'a convaincu. Et donc, pendant 8 ans, hein, j'étais à mi-temps, soutenu par l'Église. Mais, dans toute cette période, des fois, vous savez... on vous lance des choses. Dans toute cette période, je n'ai jamais envisagé d'arrêter totalement. Sur mi-temps, Seigneur, c'est suffisant. Jamais je ne quitterai mon emploi, la sécurité, la retraite, et puis ceci, puis cela. Et dans les 8 mois, dans les 8 derniers mois, en fait, j'étais dans un brouillard où, en fait, j'avais même cessé d'envisager de me remettre à mi-temps. Voilà. Je dis, tiens, je prends mon plein temps, c'est très bien comme ça, je vais aller jusqu'à la retraite comme ça, je ferai l'église à côté, c'est bien, ça roule bien ça. Et bien, il a fallu que le Seigneur fasse traverser un désert, qu'il m'empêche d'atteindre le cap que moi je m'étais fixé, une direction particulière d'école, etc., non, mais je vais te faire rater. Et il m'a fait rater. Parce que je n'étais plus dans... J'avais perdu le cap. Et il n'est pas étonnant que du coup, quand on perd le cap de la volonté de Dieu, est-ce qu'on peut se sentir bien longtemps ? Non. Et finalement, vous voyez, au moment où on dit, bon, mais on ne va pas continuer comme ça. Ah non, ce type de d'émotion où on a envie de parler à personne, où ça va pas. Non, jusqu'à quand ? Seigneur, éclaire-moi. Eh bien, le Seigneur m'a éclairé. Bam ! Romain, paf ! Colossiens, tac ! Jérémie. jusqu'à cette conviction intérieure de dire, tu vois, voilà le cap que j'ai pour toi. Et il n'y avait pas que ce cap. Tout à l'heure, je parlais du jardin intérieur. Vous savez, la reconnaissance plutôt que l'irritation. Compte les bienfaits de Dieu. En début d'été, nous avons étudié Jonas, n'est-ce pas ? Et Jonas qui pose cette, Dieu qui pose cette question à Jonas, fais-tu bien de t'irriter ? Ça aussi, ça m'a marqué. Fais-tu bien de t'irriter ? Compte plutôt les bienfaits de Dieu. Après, autre chose qui est important, c'est de faire le point. On dit, Seigneur, donne-moi la clarté. Mais le Seigneur me montre avec clarté. Et il m'a montré, il me dit, mais est-ce que tu cultives vraiment d'être rempli du Saint-Esprit ? Ben, Seigneur, j'entretiens ma vie spirituelle. Je veille à être à moitié rempli du Saint-Esprit. Hein ? Quand même, on ne laisse pas le Seigneur. On est à moitié rempli du Saint-Esprit. Mais le fruit de l'esprit en Galates 5, 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance. Vous avez remarqué que le deuxième c'est la joie. Alors, si on est à demi rempli de l'esprit, on est à demi joyeux. Puis quand on est à demi rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on est à demi vide aussi. Je ne sais pas très bien comment, à demi-vide, on peut se sentir bien. Et le Seigneur m'a montré de dire, tu vois, ça fait un petit moment que tu négliges un petit peu d'être rempli de l'Esprit. Tu veilles à être rempli à demi, mais tu n'as qu'une demi-joie. Et l'autre partie, elle est vide. Et regardez, dans les fruits de l'Esprit, combien c'est important, l'amour. Quand je marche dans l'amour, bien sûr, ça fait du bien aux gens qui sont autour de moi, mais ça me revient. Quand je manque d'amour, j'abîme les gens qui sont autour de moi, mais je m'abîme aussi. Vous savez, c'est comme quand on tire au fusil. Moi, je n'ai jamais fait, mais il paraît que plus vous tirez des gros trucs, et il y a apparemment ce qu'on appelle le recul, je crois. Hein, on tire et il y a le recul de l'arme. Et il paraît que ça peut vous défoncer l'épaule si vous n'êtes pas bien costaud, pas bien mis, etc. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on tire sur quelqu'un et en même temps, il y a ce recul qui nous abîme, nous, en fait. Eh bien, c'est la même chose. Quand on ne vit pas le fruit de l'esprit, quand on manque d'amour, je manque d'amour pour les autres et ça leur fait du tort, mais il y a le recul. Et ça me fait du tort. Vous savez, quand on vit en manquant d'amour, ce manque d'amour va vous mener vers le bas, émotionnellement. Quand on vit sans la paix, il dit le fruit de l'esprit, c'est la paix. Mais quand je vis en conflit, j'abîme les autres, mais je le recule. Et ce conflit que j'ai avec les autres, il y a ce recul qui m'abîme moi. Quand je manque de patience, mon impatience va abîmer les autres. Hein, je tire sur les autres avec mon impatience, mais cette impatience, il y a le recul et je la récupère dans ma vie. Et on peut continuer comme ça sur le fruit de l'esprit, hein, la bienveillance. Quand je manque de bienveillance, j'abîme les autres, je tire sur les autres avec mon manque de bienveillance, mais il y a le recul qui me fait du tort. Alors, le Seigneur nous invite à cultiver le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit pour que son fruit puisse s'épanouir en nous. Et cette fois, quand nous le mettons en œuvre, il y a le retour. Il y a le retour. Parfois, nous essayons d'avoir l'amour, la patience, la bienveillance par nos propres forces. Et bien là, on s'épuise. Ça casse notre morale. J'essaye d'être dans l'amour, j'essaye d'être dans la bienveillance. En réalité, ça ne vient pas, ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est mon fruit que j'essaye de créer parce que je ne suis pas rempli de l'esprit, mais j'essaye de vivre comme un chrétien, j'essaye de faire ce qu'il faut, et j'en ai beaucoup de chagrin, de déception, et en fait, mon moral plonge. Eh bien, le Seigneur nous dit, si tu cherches à le fabriquer, à le construire par toi-même, tu vas être mal. Mais moi, je peux le faire en toi. Ta seule responsabilité, c'est d'être rempli de l'Esprit. Et le Seigneur m'a montré clairement, dire, mais bon, va plus falloir être rempli de l'Esprit qu'à moitié ou qu'aux trois quarts. Soyez rempli de l'Esprit. Soyez rempli de l'Esprit. Alors, j'ai repris de meilleures habitudes de lecture de la parole de Dieu, de méditation, de temps de prière, que parfois on raccourcit. Vous voyez comment on les raccourcit ? Remis en œuvre. Pendant le temps où j'étais pas bien non plus, j'ai demandé à certaines personnes de l'Église de prier pour moi. C'est important de pouvoir combattre ensemble. Dans l'Église, il y a des gens qui ont un ministère particulier de prière. Vous savez que ce sont des gens qui, si vous leur demandez de prier, ils vont prier. Parce que c'est le ministère que Dieu leur a confié. Ils vont y passer tous les jours du temps. Eh bien, Seigneur, place des ministères comme ça dans l'Église pour qu'on puisse combattre ensemble. Et c'est important, donc, quand on traverse des moments comme ça, qu'on puisse partager à quelqu'un qui a ce ministère de prière pour qu'il puisse prier. Et je sais que l'issue, où le Seigneur m'a redonné un cap, elle est aussi le fruit de la prière de plusieurs personnes. Alors, peut-être comme moi ces derniers temps, vous traversez un moment où vous en avez ras-le-bol. Vous en avez marre, vous avez plus de sentiments négatifs que positifs au cours de la journée, et vous avez envie d'en voir le bout. Ce psaume 13 nous donne une ligne. Reconnaître, dire Seigneur, je vais pas bien. Voilà, c'est dit Seigneur, je vais pas bien. J'en ai marre. Mais je ne veux pas plonger plus bas. Alors je m'adresse à toi tout spécialement. Et je te demande d'éclairer mon regard. Éclaire mon regard. Un regard éclairé sur ce que je vis, sur ce que je traverse, sur ce que tu veux pour moi, sur ce que le cap que tu me fixes. J'ai plus de cap. Je sais pas à quoi tout ça rime, mais j'ai plus de cap. Seigneur, montre-moi le cap, redonne-moi un cap. Et Seigneur, il le fera. Et il va vous éclairer sur là où vous avez besoin de vous mettre en chantier. Sur le fait de vous remplir à nouveau du Saint-Esprit. Et vous savez, j'aimerais terminer par là, peut-être, vous savez, des fois on se dit, bon ben, j'aimerais que ce soit fait une fois pour toutes. Moi, je ne suis pas sûr que dans un mois ou dans deux mois, je ne sois pas obligé de repasser par les étapes du psaume 13. Chez certaines personnes, les étapes du psaume 13, ça va être tous les jours. Tous les jours, ils vont se lever mal. Et tous les jours, ils peuvent vivre le psaume 13. Et pouvoir chanter à l'Éternel, car il a fait du bien. Et peut-être le lendemain, il faudra recommencer. Mais, et c'est ça, c'est cette question jusqu'à quand ? Le Seigneur nous dit, mais mets-toi en chantier. Mets-toi en chantier. Et moi, je serai au rendez-vous. que je trouve formidable dans la vie chrétienne, c'est que de toute façon, les découragements, la dépression, qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, c'est notre psychisme dans un monde où il y a eu la chute. Hein. Qu'on soit chrétien ou qu'on ne soit pas chrétien, ça ne change rien. On va rencontrer des moments comme ça. Par contre, ce qui change, c'est que nous pouvons avoir le Seigneur qui éclaire notre regard. Et ça, ça change tout. Ça va tout changer. Pour ma journée, peut-être que pour ma journée, ça changera pour ma journée. Et il le changera pour le lendemain. Le Seigneur a dit, à chaque jour, suffit sa peine. À chaque jour, suffit sa peine. Nous, on veut que ce soit réglé peut-être pour aller pour 3 mois, 5 mois, 6 mois, 10 ans, ça m'arrangerait. Peut-être, à chaque jour, suffit sa peine. Ne nous lassons pas de venir auprès du Seigneur, de dire Seigneur, aujourd'hui, ma peine, elle est là. Éclaire-moi. Et le Seigneur va éclairer. Prions. Seigneur, tu vois tout, tu nous vois tous, et tu connais ce matin, chez mes frères, chez mes sœurs, ceux qui, en ce moment, ne vont pas très bien, traversent un épisode, Seigneur, de déprime. Tu vois tout ce qui se bouscule dans leur âme, dans leur cœur, toutes les émotions diverses avec lesquelles ils n'arrivent pas forcément à mettre en ordre, à mettre des mots, à submerger. Et Seigneur, je veux te prier pour eux, afin que tu puisses faire vivre ce psaume 13 comme une réalité dans leur vie. Avec cette patience, Seigneur, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons récolter, mais ce jusqu'à quand, tu n'y réponds pas. Mais par contre, lorsqu'on vient à toi, Seigneur, de façon spécifique, pour te demander d'éclairer notre regard, tu le fais. Et je veux te prier, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, là où un frère, une sœur a perdu le cap et déboussolé, il puisse venir à toi, te demander ce cap. Et que dans les jours qui viennent, tu puisses le lui donner, le lui montrer. Et Seigneur, c'est un vrai chant alors qui s'élève du cœur. Même si les difficultés, les épreuves, les adversaires n'ont pas forcément tous été enlevés, le cap est là. Et nous te remercions parce que tu es celui justement qui nous donne ce sens à notre vie, à notre existence. Tu veux nous communiquer ta volonté, nous fixer un objectif. Et à partir de là, Seigneur, tu nous donnes les moyens de marcher et de l'accomplir, même au travers des difficultés. Te remercions, Seigneur, pour tous les moments de tranquillité aussi, de tranquillité d'esprit que tu nous donnes dans notre vie. Nous ne sommes pas toujours dans le combat. Parfois, tu nous donnes des temps de repos salutaires, bénéfique, nous voulons te remercier pour cela aussi. Que nous puissions, Seigneur, faire de ces moments des points forts dans notre mémoire, afin que nous puissions nous souvenir que tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien dans le passé. Tu nous continues de nous faire du bien aujourd'hui, dans le présent, au sein même d'épreuves. Et nous voulons fixer nos regards sur cela et être reconnaissants. Au nom de Jésus. Amen.